Les mystères de Cybèle, un récit sonore de Matrimoine en Diwa. Pourquoi méconnaissons-nous Cybèle, grande mère des dieux et l'une des plus grandes divinités au Proche-Orient? Pourtant, de nombreux autels tauroboliques attestent de sa présence à Di à partir du 2e siècle de notre ère, comme celui intégré dans les fondations de l'ancien palais épiscopal. Échange avec Jacques Planchon, conservateur du musée de Die et du Diwa, Catherine Rose Evans et Piotr Pietrus, artistes accueillis à Die Residence et exposés au musée en 2021.
À la fin du XVIIe siècle, la ville de Die retrouve un évêque, ce qui ne lui était plus arrivé depuis la fin du XIIIe siècle. Et le nouvel évêque qui arrive décide de remettre au goût du jour son vieux palais épiscopal. L'évêque donc va employer des pierres venues d'un petit peu partout, et celle-là est intégrée dans la façade principale, à côté de la porte d'entrée principale du palais. Et donc ça, il s'agit d'un hôtel taurobolique. C'est un hôtel commémoratif, c'est-à-dire que là, on rappelle le souvenir d'un sacrifice qui a été fait pour une divinité, en l'occurrence la déesse Cybèle. Donc sur les tauroboles de Die, et uniquement ceux de Die, on retrouve en façade principale une tête de taureau, une tête de mouton et les instruments rituels du sacrifice. Avec dans le désordre le couteau qui va servir à égorger les bêtes. Donc il est toujours représenté. Ensuite, des instruments qui sont plutôt des instruments de musique. Le flûtiste est extrêmement important dans ces cérémonies-là. On retrouve d'ailleurs régulièrement sur les inscriptions tauroboliques le nom du flûtiste. En plus de ces instruments de musique, on va trouver quelque chose d'un petit peu plus étonnant, c'est le caducée. Alors, le caducée, normalement, c'est le symbole de Mercure. Mercure en tant que messager des dieux. Et qui, en tant que tel, c'est-à-dire c'est une forme de diplomate, il utilise donc le bâton du diplomate, justement ce fameux caducée. Et c'est sans doute cette thématique-là qui est représentée sur le taurobol. Le culte de Cybèle est un culte relativement particulier, venu d'Orient. Ça fait partie de ce qu'on appelle les cultes à mystère, c'est-à-dire qu'il y a des intercesseurs entre les fidèles et la divinité. Intercesseurs qui donc servent de messagers ou de diplomates entre la déesse et les hommes. D'où sans doute la représentation du caducée. Alors on a 7 tauroboles connus, 6 sont conservés, dont 5 à Die. Un, celui qu'on vient de voir sur la place de l'évêché, et les 4 autres au musée, plus un qui est dans une collection privée dans le Var.
Quand nous sommes arrivés ici, nous avons commencé à faire les recherches de cette région. Et on a lu qu'il y a eu un culte de Cybèle ici longtemps, de 2000 années avant. Et cet personnage, cette déesse, dans quelques histoires, elle est venue ici comme un météore noir. Et aussi, elle est la mère des montagnes, c'est un autre nom. Alors, Mountain Mother. Et aussi, il y a une connexion entre les morts et les vivants.
C'est une déesse dont le lieu d'origine est le mont Ida, donc le nord-ouest de la Turquie. Donc, oui, issu d'une montagne. C'est la tradition romaine qui raconte l'histoire, c'est-à-dire qu'un problème se pose. Un oracle dit que ce problème ne sera résolu que si les Romains vont chercher la pierre noire de la déesse Cybèle en Anatolie. Donc les Romains vont chercher la pierre noire. Cette pierre est ramenée à Rome avec quelques prêtres qui viennent d'Anatolie pour l'occasion. Mais ça se passe au fin du IVe siècle avant Jésus-Christ. Après, le culte à Rome, de toute façon, s'installe de façon marginale au départ, même s'il a de l'importance, parce que tant que la manifestation de la déesse restera présente, Rome sera protégée. Et par contre, c'est un culte qui va surtout se développer à partir du IIe siècle en Occident.
Attis, un jeune Phrygien au visage remarquable, vivait dans les forêts. Il inspira à la déesse autour un amour chaste qui la tint enchaînée. Elle voulut qu'il lui fût réservé, qu'il surveillât son temple et dit « Arrange-toi pour vouloir toujours être un enfant ». Il jura fidélité à ses ordres et ajouta « Si je mens, que cet amour pour lequel je faillirai soit mon ultime amour ». Il fauta, et ayant rencontré la nymphe Sagaritis, cessa d'être ce qu'il était. Dès lors, la colère de la déesse exigea un châtiment. Elle frappa la naïade en infligeant des blessures à son arbre. La naïade mourut. Cet arbre représentait sa destinée. Attis devient fou et, croyant voir s'écrouler le toit de sa chambre, il s'enfuit et gagne en courant les sommets du Dindyme. Tantôt il crie « Enlève les torches !» Tantôt « Éloigne les fouets !» Souvent, il jure que les déesses palestiniennes sont près de lui. Il s'est même lacéré le corps avec une pierre aiguisée et a traîné sa longue chevelure dans la poussière immonde. On entend sa voix. Je l'ai mérité. Je paye de mon sang un châtiment mérité. Ah, que périssent ces organes qui m'ont fait tort. Oui, qu'ils périssent, disait-il encore. Il enlève le poids de son naine et aussitôt, il ne lui reste plus aucun signe de sa virilité. Cette fureur devint un exemple et les servants indolents de la déesse tranchent leur partie honteuse en agitant leur chevelure.
Ovide, les fastes.
Que ce soit dans les inscriptions ou dans les textes antiques, on a quand même la mention d'eunuque. Et il y a cette imitation d'Attis chez les prêtres qui peut les amener à s'émasculer. L'émasculation peut être réelle et peut aussi être symbolique. Et là peut-être aussi qu'on a le rôle du taureau lors du sacrifice, puisque le taureau, lui, est émasculé. Et après avoir fait des rites secret, là on est dans le mystère du culte, on va enterrer ces parties quelque part. Le fait de sacrifier les animaux, bon, c'est une constante, pour tous les sacrifices pour des divinités. Après, ce qu'on fait avec les parties génitales, ça c'est une spécificité, mais qu'on retrouve dans assez d'inscriptions pour penser que c'est généralisé.
Ses prêtres et son nom rappellent la Phrygie, où les traditions veulent que sa magie, pour le donner au monde, ait évoqué le blé. Ces Galles furieux, cortèges mutilés, semblant crier « Enfants ingrats envers vos pères, insensés contempteurs du culte de vos mères, vous ne méritez plus d'engendrer des humains !» Et la peau des tambours tonne au choc de leurs mains, et la cymbale éclate, et les cornets farouches, avec le fifre aigu, glapissent sous les bouches.
Lucrèce, de la nature des choses.
Un esprit, ouais. Elle est un peu comme un esprit. On l'a cherché dans un mode plus poétique. Dans les montagnes, avec les vultures qui sont entre les morts et les vivants. Dans les trônes, on l'a cherché en différents aspects.
Sibel, for me, is really powerful because of this idea of her being the mountain mother.
Sibel est pour moi très puissante par cette idée qu'elle est la mère de la montagne,
or coming to the earth from the meteorite,
ou incarnée par une météorite.
And for me, this is this really powerful connection between us and geological material.
Pour moi, il y a une connexion puissante entre nous et les matières géologiques sur Terre.
This spirit that is everywhere. here, because, I mean, here,
donc un esprit qui est partout ici.
Ici,
cette région pressée contre les Alpes,
où
l'on voit les montagnes tomber, leurs falaises glisser,
and they're being continually made there, a new
et elles sont en continuelle création, elles continuent de croître. Et Cybèle est cet esprit qui infuse à travers ces matières géologiques, ce qui est très beau pour moi. J'ai un fort intérêt pour ces roches, leur forme, leur force, leur matière. Et pour moi, elle les incarne. Un esprit tout englobant. Et qu'elle soit un esprit féminin est pour moi aussi très puissant. J'ai beaucoup travaillé en studio en photographiant les ombres des roches à la recherche de Cybèle dans la forme des ombres. Je recherchais son profil. C'est quelque chose qui traverse la série de photos.
Whether it's in the portrait of a rock or portrait of a person that we found or that we've met.
C'est cette recherche de son profil dans le portrait d'une pierre ou le portrait d'une personne que nous avons rencontrée.
Commençons par la terre. Elle enferme en ses flancs la source de ces eaux dont les tribus roulant renouvellent la mer immense. Elle recèle la flamme qui du sol par son bouche ruisselle. Ces feux que des Etna vomissent les fureurs. Elle possède enfin les semences des fleurs et des blondes moissons, les germes des feuillages mouvants, des fruits heureux et des frais pâturages, de quoi sustenter l'homme et les bêtes des monts. Ce n'est donc pas à tort que nous la proclamons mère auguste des dieux, des hommes et des êtres, et qu'elle est apparue aux chantres grecs, nos maîtres, haut montée en un char traîné par deux lions.
Pour moi, elle a un rapport direct avec la position géostratégique de Dis. Même si c'est relativement tardif, hein. La première apparition de la déesse Cybèle à Rome, c'est vers le 3e siècle avant Jésus-Christ. Elle arrive sur Dis au 2e siècle après Jésus-Christ, donc c'est en effet tardif. Mais voilà, c'est le passage des légions, le passage des commerçants, le passage des voyageurs qui va amener ces idées nouvelles. Dis est à ce moment-là sur l'autoroute de l'Italie. Donc on sort de la vallée du Rhône, on passe par Dis, on atteint les Alpes. Et on franchit les Alpes pour aller en Italie. C'est une des routes principales. Donc c'est une des routes aussi où se croisent le maximum de gens et donc le maximum d'idées. Et ça me paraît, moi, tout à fait logique que Dis soit un des réceptacles de ces cultes étrangers. Donc pour moi, elle est la représentation de ce brassage de l'Empire, en fait. Il fait qu'en territoire occidental, on va avoir des influences orientales qui s'expriment sans que ça pose de problème à personne. Et Cybèle, c'est la grande mère des dieux. Donc grosso modo, c'est le principe divin. C'est elle qui engendre les autres. Donc c'est une façon de la mettre au-dessus des autres. Et ça, c'est en effet, enfin, dans ma conception en tout cas, ça nous amène doucement vers le monothéisme.
Avec Jacques Planchon, conservateur du musée de Dis et du Diwa, Catherine Rose Evans et Piotr Pietrus, artistes accueillis par Connie Becker à Dis Residence en 2020. Les extraits d'Ovide et de Lucrèce sont lus par la conteuse Anne Deval. Une réalisation de Caroline Fontana, la bande sonore. Ce récit sonore a été réalisé dans le cadre de la recherche-action Matrimoine en Diwa, qui a pour ambition de mettre en lumière l'œuvre et l'héritage souvent invisibilisé des femmes. Le matrimoine et le patrimoine constitue à part égale notre culture commune dans une perspective d'égalité entre les femmes et les hommes. Vous pouvez retrouver les autres récits sonores sur le site matrimoineandiwa.fr.